Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 9 juin 1660, le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche. La France et l'Espagne sont en guerre depuis 1635, quand Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche se marient le 9 juin 1660. Cette union est l'aboutissement de la politique menée par Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin. Il triomphe ainsi des dérobades du roi d'Espagne Philippe IV, qui a promis sa fille successivement au souverain français et à l'empereur germanique. Louis XIV est à Lyon pour y rencontrer sa cousine et future épouse, Marguerite de Savoie, quand il apprend le 2 décembre 1658 que le roi d'Espagne consent enfin à lui accorder la main de l'infante Marie-Thérèse. Le roi Soleil fait grise mine à l'idée de rompre son premier projet nuptial et d'épouser une inconnue. Mazarin est soulagé d'engager sous les meilleurs auspices les négociations de paix avec l'Espagne, défaites militairement et économiquement. En mars 1659, Don Juan d'Autriche, fils légitimé de Philippe IV et gouverneur des Pays-Bas, se rend à Paris, accompagné d'une suite espagnole. Il vante à Anne d'Autriche et à Louis XIV la beauté et les qualités de Marie-Thérèse. Un premier traité est signé. Trois mois plus tard, en la capitale française. En juillet 1659, Mazarin prend la route de la frontière espagnole pour rejoindre l'île aux Faisans, où se négocient les conditions de la paix et celles du mariage. Le montant de la dot de Marie-Thérèse est un point délicat des tractations diplomatiques. En août, la cour de France s'ébranle à son tour. L'Espagne cherche encore à gagner du temps. Luis de Haro, le principal ministre de Philippe IV, oppose de nouvelles objections. Le souverain ibérique malade, mais désireux de remettre sa fille en main propre au roi de France, fait repousser le mariage à l'année suivante. La cour de France se résigne donc à passer l'hiver en Provence, tandis que le duc de Gramont, gouverneur du Béarn et de la Navarre, se rend à Madrid pour solliciter officiellement du roi d'Espagne la main de sa fille. Le traité des Pyrénées est signé le 7 novembre 1659, mais de nouveaux conflits s'ouvrent à propos de ces conditions d'application. Mazarin, en proie à de terribles crises de goutte, ne supporte plus les chicaneries des plénipotentiaires espagnols, le climat de la côte basque, les querelles d'étiquette ou encore les impatiences de Louis XIV qui n'est pas autorisé à écrire à sa promise tant que la dispense pontificale autorisant le mariage entre cousins doublement germains reste en attente. En effet, Philippe IV et Anne d'Autriche sont frères et sœurs et ont épousé respectivement Élisabeth de France et Louis XIII, également frères et sœurs. Philippe IV et Marie-Thérèse quittent Madrid le 15 avril 1660, suivis d'un convoi qui s'étire sur près de 32 kilomètres. Le 11 mai, la cour espagnole s'installe à San Sébastien, pour attendre l'issue des négociations qui aboutissent le 1er juin. Le lendemain, Marie-Thérèse renonce solennellement à tout héritage paternel et maternel. Le mariage par procuration est célébré le 3 juin 1660 à Fontarabie, sur le sol espagnol. C'est le seul valable sur le plan strictement juridique. Marie-Thérèse est donc déjà reine de France et de Navarre quand elle arrive à Saint-Jean-de-Luz. En habit gris, brodé d'argent et coiffé d'un chapeau orné d'un énorme diamant, le miroir du Portugal, et de la plus grosse perle de la chrétienté, la fameuse pèlerine, Philippe IV est impressionnant. L'église gothique de Fontarabie est décorée de magnifiques tapisseries représentant la légende de Crésus. Une messe grandiose est célébrée par l'évêque de Pampelune. Le témoin de Louis XIV, Mgr Joseph Zungo Andelei, évêque de Fréjus, détient la procuration, autorisant Louis de Haro à épouser l'infante au nom du roi soleil. Elle est lue, ainsi que la dispense papale, puis s'effectue l'échange des consentements. À la question « Voulez-vous prendre pour époux Sa Majesté le roi très chrétien ?», Marie-Thérèse, en larmes, tombe à genoux devant son père. La question est réitérée à deux reprises. Le strict protocole de la cour d'Espagne exige que l'infante ne réponde « si » qu'à la troisième demande. Le lendemain, 4 juin 1660, Philippe IV et Anne d'Autriche, qui ne se sont pas rencontrés depuis plus de 40 ans, se retrouvent sur l'île aux faisans. Retrouvailles graves et émues, marquées par cette phrase prononcée par Anne d'Autriche, « Votre Majesté me pardonnera d'avoir été si bonne Française, je le devais au roi, mon fils, et à la France. » 2 jours plus tard, Louis XIV et Philippe IV signent officiellement la paix. Le souverain espagnol dit alors « Après votre majesté, la seule personne qui aurait pu me décider à entreprendre ce voyage, c'est la portion de mon cœur qu'est cet enfant. Je l'ai amené ici afin de vous la donner pour femme. J'ai la confiance que votre majesté la tiendra en l'estime qu'elle mérite. » Le mariage est à nouveau célébré en France, à Saint-Jean-de-Luz, par l'évêque de Bayonne, Mgr Jean Dols. En l'église Saint-Jean-Baptiste, la messe nuptiale dure 3 heures. C'est un éclair pour Anne d'Autriche, qui exulte de bonheur, une éternité pour Louis XIV, qui s'impatiente visiblement, un ultime délai pour Marie-Thérèse. Le mariage du roi de France et de l'infante espagnole ne tient pas toutes ses promesses de paix. Marie-Thérèse, dont Saint-Simon écrit qu'elle est aussi passionnée française que les plus naturels des Français, n'oubliera jamais qu'elle fut l'héritière du trône d'Espagne. En relevant ses droits, Louis XIV entretient le rêve commun de réunir sur leur tête et sur celle de leurs enfants la double couronne. En 1700, le rêve est réalité, le duc d'Anjou, leur petit-fils, devient roi d'Espagne sous le patronyme de Philippe V. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres » préparée par Emmanuel. C'est Francis Cabrel qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons l'un de ses premiers succès, c'était en 1980, dans l'album « Fragile, la dame de Haute-Savoie ».
Quand je serai fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent, quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases, quand leurs mots voleront un éclat, quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve, quand je serai fatigué d'un métier où tu marches, où tu crèves, lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Y a les étoiles qui courent dans la neige autour,
n'aurai plus ma place. Au lieu de me jeter sur le premier Jésus-Christ qui passe, je prendrai ma guitare avec moi et peut-être mon chien s'il est encore là, et j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie, chez la dame de Haute-Savoie.
Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire. Un jour, trois livres préparés par Emmanuel, que je remercie. Nous commençons par Les Neuf Vies de Sappho. C'est signé Laure de Chantal et c'est publié aux éditions Stock. Première femme écrivain, voire premier écrivain tout court. Musicienne, philosophe, éducatrice, activiste politique, Sappho, ayant vécu au 7e siècle avant notre ère, fut de son vivant la première autrice à être reconnue comme géniale. Elle fut par la suite, de l'Antiquité à nos jours, sans cesse métamorphosée, quitte à être détournée, ce qui lui assure paradoxalement le privilège d'une nouvelle existence. Toujours trahie, toujours vivante, toujours géniale, telle est Sappho de Mytilène. Ce sont quelques-unes de ses vies à la fois absolument réelles et fictives, puisqu'elles ont été crues, 9 pièces d'un fascinant puzzle que raconte ce livre. Sage, aussi connu et révéré que Socrate chez les Grecs, Sappho devient tour à tour courtisane, sorcière païenne, activiste révolutionnaire, lesbienne sulfureuse et féministe iconique, miroir tranchant où se reflète l'image de la femme propre à chaque époque. À travers ces 9 vies de Sappho, emblème de toutes les femmes qui ont osé prendre la plume pour faire entendre leur voix, Laure de Chantal explore la question de la place que les sociétés ont réservée aux femmes auteurs. Les 9 vies de Sappho, c'est aux éditions Stock et c'est signé Laure de Chantal. La déchirure du temps de Herta Paoli aux éditions Liana Levy. Issue d'une famille d'éditeurs juifs, actrice de théâtre d'avant-garde à Vienne, écrivaine, agente littéraire, d'auteur interdit par les nazis, Herta Paoli s'est toujours engagée. Aussi se sait-elle en danger quand les nazis annexent l'Autriche en 1938 et sautent dans un train direction Paris. D'autres, poètes, éditeurs, journalistes, prennent le chemin de l'exil et rejoignent la petite colonie d'émigrants qui se retrouvent dans les cafés parisiens. Jour après jour, elle livre la chronique de cette communauté cosmopolite, les discussions politiques, les peurs et les espoirs, les tragédies qui les déchirent, les amours au temps de la drôle de guerre, avec toujours au-dessus d'eux la menace qui plane. Quand les nazis marchent sur la capitale, il leur faut fuir à nouveau sous une pluie de bombes vers le sud et la zone libre. À Marseille, Herta retrouve d'autres exilés, pris dans la même souricière et qui, comme elle, cherchent coûte que coûte à rejoindre l'Amérique. Là, ils font une rencontre déterminante, celle d'un certain Varian Fry, qui va les aider à gagner l'Espagne. Elle finira par quitter l'Europe en partant de Lisbonne le 3 septembre 1940. Elle en fait un récit autobiographique qui paraît en feuilleton entre octobre et novembre 1940 dans le journal L'Aufbau, journal germanophone fondé en 1934 par des juifs allemands aux États-Unis. en 1970, elle s'y replonge pour écrire La déchirure du temps. La déchirure du temps de Herta Paoli s'est publiée aux éditions Liana Levy. Et pour terminer cette chronique, je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là, de Nicolas Greenberg aux éditions Actes Sud. Voici 31 témoignages qui tentent de présenter ce qu'est être juif dans la Pologne d'aujourd'hui. Tel le petit garçon qui a eu peur d'Hitler alors qu'il est en colonie de vacances, ou deux frères entrepreneurs demandant à un rabbin de certifier qu'ils ne sont pas juifs. Des amis ou des anonymes se confient à l'auteur. Ils lui racontent leur histoire familiale, un épisode de leur vie, un traumatisme. Ils ont tous en commun d'être juifs. Dissimulation, secret, solitude, antisémitisme larvé, déni des origines font partie de leur quotidien. C'est la réalité à laquelle ils sont confrontés dans la Pologne d'aujourd'hui. L'auteur nous livre leurs témoignages, consignés dans des textes laconiques, sous forme de nouvelles, sans pathos bouleversant. Il ne juge ni ne s'apitoie jamais. Son écriture se veut impartiale, voire détachée. Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. C'est signé Nicolas Greenberg et c'est publié aux éditions Actes Sud. Ainsi s'achève cette émission Historama. Je remercie Thomas qui l'a réalisée et nous nous séparons en chanson avec Francis Cabrel. Nous écoutons un titre de 1994, extrait de l'album « Samedi soir sur la terre ». La cabane du pêcheur.
De tout son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit, pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. C'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs. Alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Viens t'asseoir. Je l'ai dit. On n'est pourtant pas si loin, on voit les lumières. La terre peut faire tous les bruits qu'elle veut. Y'a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut. Soir dans la cabane du pêcheur, c'est un mauvais rêve, oublie-le. Tes rêves sont toujours trop clairs ou trop noirs, alors viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur.
Thank you.